C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Jean Cocteau, 1889-1963, France. A principalement vécu à Paris. Confession, catholique, non pratiquant, probablement agnostique, sinon athée. Politique, droite modérée, qu'il a qualifié lui-même dans son journal de droite de gauche, gaulliste à la fin de sa vie, De Gaulle étant président de la République française. Gay. En 1923, il est amoureux de Raymond Radiguet, lequel est hétérosexuel. Livre Thomas l'imposteur, roman paru en 1923. Personnage Guillaume Thomas. Adaptation. Un film a été tiré du roman de Cocteau, portant le même titre. Réalisé par Georges Franju, il est sorti en 1965. Cocteau, mort en 63, est crédité au scénario et dans les dialogues, soit qu'il l'ait obtenu par contrat et que ce soit resté purement formel, soit qu'il ait réellement travaillé au film. L'acteur interprétant le rôle de Thomas est Fabrice Rouleau, fils de l'acteur et réalisateur Raymond Rouleau. Il y a aussi Emmanuelle Riva dans le rôle de la princesse de Bormes. Moi qui ai eu un imposteur pour héros, si on peut adjoindre ces deux mots dans un de mes romans, j'ai un intérêt tout particulier pour Thomas l'imposteur. Né Guillaume Thomas, il change de nom, à la façon de Bellamy et de tant d'autres, afin de réussir. C'est un des personnages les plus séduisants de la fiction française du XXe siècle, même si le roman de Cocteau a été écrit un peu vite, comme on peut le voir à certaines expressions figées. Séduisant, c'est bien le moins pour un imposteur. Il est aussi un révélateur du moment où il vit. Jean Cocteau, peu de gens lui rendent grâce pour cela, a écrit deux des rares œuvres qui ne soient pas mensongères sur la guerre de 14, du moins parmi celles qui ont été écrites sur le moment. Il est très risqué d'écrire sans mensonge sur une guerre peu après qu'elle s'est finie et qu'elle a fait 1,5 million de morts. Ces deux œuvres sont Thomas l'imposteur et le poème Visite dans le discours du Grand Sommeil où un soldat blessé au front dit son agonie. Il semble presque impossible à la fiction publiée sur le moment de mettre en question l'héroïsme ou le genre d'héroïsme, lequel doit être ou impétueux ou laconique, et en tout cas sacrificiel. Le roman le plus mensonger dans cet ordre-là, et il n'est pas étonnant qu'il soit vanté par un mauvais romancier idéologue contemporain dont il n'est pas la peine de dire le nom, est Le déclin du courage. Dans ce roman de 1895, Stephen Crane crée un personnage qui est en réalité une marionnette morale placée dans une situation stéréotypée pour faire la propagande des valeurs, comme on ne disait pas encore, on sait ce que valeur veut dire. Lors de la guerre de sécession, le soldat Henry Fleming déserte le combat. Pris de remords, il se reprend et se met à la tête de la brigade dont le chef vient de tomber et mène les troupes à la victoire. C'est bête comme de l'opéra, si je puis dire. Je ne veux pas dire que cette sorte d'héroïsme n'existe pas, quoi qu'on puisse douter qu'il existe de cette façon-là. Je veux dire que les bons romans ne servent pas à donner des modèles de comportement vertueux par l'exemple. Cocteau montre un imposteur et cela ne veut bien sûr pas dire qu'il le recommande plus qu'il l'approuve. Pour parler avec moi de ce personnage de Thomas l'imposteur, je reçois Claude Arnaud, auteur d'une biographie de Jean Cocteau chez Gallimard et qui publie ces jours-ci l'anthologie Portrait craché dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Claude Arnaud, voudriez-vous, pour commencer, me résumer les aventures très simplement de ce Thomas ?
Alors Guillaume, c'est un jeune homme qui s'appelle Guillaume Thomas, de son vrai nom, et qui découvre en plein cœur du Paris, du Faubourg Saint-Germain, un hôtel particulier. On est au tout début de... dans les premiers mois de la guerre 14-18, la Première Guerre mondiale. Il découvre une atmosphère de grande agitation, et il se trouve être dans la cour de l'hôtel particulier de la princesse de Bormes, qui organise des convois qui sont censés venir en aide aux soldats mutilés, à les encourager, à les évacuer quand ils sont blessés, à les soigner quand ils ne sont pas trop gravement blessés. Et ce jeune homme est un jeune homme audacieux, avec un sens de l'irréalité assez remarquable, comme seul Cocteau peut le décrire, et va donc s'immiscer dans cette vie qui elle-même est un peu artificielle, puisque Paris a été évacué en grande partie par l'avancée allemande, et que ne reste juste là que des gens soient extrêmement sûrs de leur statut social et de leur intouchabilité, si on peut dire, soient complètement déréalisés comme lui. Et lui est un aventurier comme... ça, je dirais, c'est le premier point très fort de ce personnage et du livre de Cocteau, c'est que Cocteau utilise un fait avéré pendant la Première Guerre mondiale, c'est cette profusion de vocations d'imposture. Alors, ce ne sont pas des impostures simples et sordides d'argent, c'est des impostures existentielles. Et c'est en cela que ça le touche, et je pense que ça nous touche, vous et moi.
C'est un bourgeois.
Oui, alors, Cocteau dit qu'il était plutôt de bonne famille. Mais enfin, il comprend très vite que ça ne suffit pas. Et pour gagner ses entrées dans cette partie particulière, et sur ce front, il se fait passer pour le neveu d'un général... de Fontenoy, qui est un général, censé être un général très important de la Première Guerre mondiale, ce qui lui ouvre, à un moment, Cocteau a cette très belle phrase, il dit « le nom de Fontenoy ne faisait jamais antichambre ».
Il a tout de même un fond de non-invention, si je puis dire, c'est qu'il a réellement un grand-père militaire.
Alors Cocteau oui, il y a quelque chose, il avait été obsédé par un personnage qu'il avait inventé qui s'appelait le général Clapier, qui était un scrogneugneux redoutablement, enfin avec des phrases toutes faites comme on en voit dans la règle du jeu, le vieux général à la retraite qui tout le temps dit croyez-moi ça se perd, des phrases toutes faites comme ça, et un jour Picasso lui avait dit fais attention Jean, tu l'imites très bien que tu vas devenir comme ça.
Pour la question des dénominations qui est toujours importante dans les personnes de fiction, il paraît pas improbable que Cocteau ait appelé son personnage Thomas pour signifier son incrédulité.
Son incrédulité, voilà. Son incrédulité, c'est évidemment un jeu évangélique, si on peut dire, en référence à saint Thomas qui n'a cru à la mort et résurrection du Christ qu'en touchant ses plaies béantes et en ayant la preuve physique que c'était bien lui.
Quant à la princesse de Bormes, qui est donc le personnage féminin important du roman, est-ce que vous pensez, et c'est pas tout à fait frivole si je vous pose cette question-là, s'il est possible que son nom vienne de Bormes les Mimosas, qui n'est pas si loin de Grasse où depuis quelques années, à ce moment de l'écriture du roman, Cocteau allait en vacances avec Radiguet?
C'est pas impossible, oui, c'est pas impossible. Il me semble que Bormes, oui, c'est possible. Il y a la princesse de Bormes, on sent qu'il y a Missia Sert derrière le personnage, qui est assez...
Qui était Missia Sert, rappelez-nous.
Missia Sert, c'était cette femme polonaise d'origine, qui est grande mélomane, qui est excellente pianiste, qui a été le grand mécène des ballets russes de Diaghilev à Paris et qui a beaucoup fait pour la musique à partir des années 10-20 et qui était très liée à Cocteau et qui avait quelque chose de la princesse de Bormes, c'est-à-dire cette forme d'irréalité conquérante, brutale et cette aptitude à se mêler de tout sans rien faire par elle-même.
Ça participe aussi du côté un peu jeu de cartes de ce roman, probablement cette appellation, il n'est pas impossible qu'évidemment Cocteau ait pensé à la bataille de Fontenoy qui a été gagnée par la France en 1745.
Voilà, il y a ça. Et là aussi, il y a un modèle. Cocteau qui était sur le front, qui avait été ambulancier en 16-17 sur le front à Coxyde-les-Bains, qu'il décrit dans le ce court roman, avait vu un cas aussi d'imposteur qui se faisait passer pour le neveu du général de Castelnau, si je me trompe, et qui était bon. Donc il y a des éléments extrêmement concrets dans le livre, quasi documentaires, et ce qui fait qu'il y a une grande précision dans le livre, et ce qu'il y a de beau, c'est cette grande acuité détailliste sur ce fond d'imposture, mais d'imposture romanesque, et on va peut-être en parler un peu plus
bien
profondément, lié à une psyché comme ça qui confond réalité et irréalité avec une aisance confondante. Si on...
Pour rester un moment dans la réalité, il y a le fait que Thomas a grandi rue Montmartre, c'est-à-dire pas très loin de la cité Montier des Enfants Terribles et du quartier même de Cocteau. Cocteau ne s'éloigne jamais complètement de sa vie.
Dans ses fictions, de ce point de vue-là, c'est pas un romancier de race ou de souche, si on peut dire. C'est un autobiographe qui transpose et mythologise, et c'est sa grande force. Il a une force pour mythographier son propre destin, son propre parcours, et extraire l'essence un peu fictive de cette conscience qui était la sienne, et aussi de cette situation qu'est la guerre. Ce qu'il montre très très bien, et vous le dites, Visite, que vous citiez en préambule, un très 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 beau poème, ce qu'il comprend très bien, c'est la dimension opératique et complètement fictive de la guerre. C'est-à-dire, c'est des gens qui arrivent, qui sortent, c'est des tirailleurs sénégalais qui sont sur le front belge et qui ne savent pas où ils sont, comprennent pas les langues qui se parlent, voient une sorte de feu d'artifice, mais qui, une fois sur 10, est littéralement mortel. C'est ce bal de spectre d'ombre avec des fausses villes, des fausses collines, des fausses baraques. Il y a tout un circuit de galeries souterraines et de tranchées qui prend le nom du Nord-Sud, qui était le nom du métro, c'est aujourd'hui la ligne numéro 7, si je me trompe, Montmartre, Montparnasse en tout cas, et avec tous les noms des stations, y compris la station Concorde, qui évidemment est dérisoire, toute cette irréalité, parce que les Allemands sont à 100 mètres, nous entendent et vous entendent, et que les soldats français et allemands se parlent et se répondent, et parfois chantent ensemble à la Noël, tout ça, il avait très 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 bien compris cette impression de fiction incroyable qui fait qu'effectivement Thomas l'imposteur se sent chez lui à la guerre alors qu'il n'est pas soldat, qu'il est un imposteur et qu'il se fait passer pour ce qu'il n'est pas.
Alors vous le disiez, Claude Arnaud, à l'instant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce n'est pas, au contraire de la plupart des impostures, une imposture de lâcheté. L'imposture de Thomas, c'est au contraire même une imposture de courage, puisque aussi bien il aurait pu tenter de se faire réformer et de faire une imposture dans un sens bénéfique pour lui, il va au front, il va à la guerre.
C'est un prétexte pour aller à la guerre, mettre en jeu sa vie et mettre en jeu en fait sa réalité, ou plutôt son irréalité. C'est comme un test d'irréalité pour un personnage comme ça, qui se rêve, qui s'invente, et c'était là, on est très très proche de Cocteau lui-même, et c'est aussi un test d'héroïsme, et il montre bien, et ça c'est touchant, comment finalement c'est ça aussi l'héroïsme, c'est une façon, c'est aller frôler la mort un peu par inconscience.
Mais comment se passe pratiquement l'imposture? Dites-moi exactement comment
alors,
se passe l'imposture.
Alors, il rentre dans la cour de cet hôtel particulier de la princesse de Bormes, il est embarqué dans ces ambulances qui vont monter sur le front. Il est remarqué, comme il est supposé être le neveu d'un général très important, toutes les portes s'ouvrent, tout le monde veut le recruter, tout le monde veut l'avoir dans son groupe, dans son régiment. Et alors à un moment, il y a quand même un moment, il est obligé d'être rapatrié, mais il réussit à se faire encaserner, puis à se faire envoyer par un patron de presse qui est amoureux de la princesse de Bormes, sur le front avec un nouveau convoi. Et là, il participe réellement au combat, et là, il va mourir sans y croire une seconde, tout en se disant même, il faut que je simule, c'est le moment ou jamais de simuler ma mort, et il meurt en simulant sa mort. Il y a une chose très belle qui a été d'ailleurs, je pense, c'est un sujet qui a touché beaucoup, parce que ça a été repris d'une façon la Seconde Guerre mondiale, même genre de sujet avec le général de la Rovère, qui a donné un lieu merveilleux film, de Rossellini avec Vittorio De Sica.
Et il y a quelque chose qui me semble particulièrement Cocteau, c'est le jeu du piège qui piège, c'est-à-dire qu'à un moment, Thomas devient amoureux de la fille de la princesse de Bormes. Pour lui échapper, il se fait envoyer sur le front au sein d'un corps de fusiliers, même marin, comme Cocteau d'ailleurs. Et finalement, il paye de ça de la même façon qu'il meurt après une ultime imposture qui consiste à se faire passer pour mort alors qu'il a été blessé. Donc il y a ce jeu très...
être constant. Il y a ça aussi dans le rapport amoureux, effectivement, avec Henriette, la fille de la princesse de Bormes, qui ne sait pas qu'elle est amoureuse de lui non plus. À tour de rôle, il se l'avoue, mais finalement, c'est pour se rétracter. Et c'est elle, là aussi, qui va mourir de cette espèce de jeu de dupe, qui est en fait très profond et très douloureux. C'est un jeu de dupe qui devient dramatique et mortel. C'est là où, évidemment, Cocteau est beaucoup plus profond que la légèreté qu'on lui a toujours reprochée. Et s'il y a une légèreté, il en est extrêmement conscient. Et il a su très jeune quel était le prix à payer. C'est ça qui me touche chez lui. Et c'est ça qui fait que c'est un personnage beaucoup plus grand que sa réputation souvent.
Est-ce que vous voulez me dire, Claude Arnaud, rappeler à nos auditeurs, quelle a été la guerre de Cocteau? Vous l'avez à peine évoqué tout à l'heure. Comment s'est passé lui-même sa guerre de 14?
Tout le monde voulait faire cette guerre. Proust le premier, qui était vraiment par un interphysique de le faire. Des vieillards voulaient se faire enrôler. Donc c'est vraiment un moment où il y a, c'est incontestable, il y a une poussée de... Et il finit par se faire... Effectivement, il est ambulancier avec... ils partent avec Missia Cert dans des tenues dessinées par Paul Poiret, qui est le grand couturier de l'époque. Donc c'est des tenues extravagantes. Ils font ça vraiment là, presque en riant, presque en sifflant.
C'était
la guerre.
C'était la section d'ambulance créée par le prince de Beaumont.
Voilà, c'est ça, par le prince, absolument. Et puis, Cocteau est réellement intégré à une unité d'ambulanciers, donc il n'est pas armé, il n'est pas avec un fusil en première ligne. De toute façon, il n'a ni la formation, il a peut-être plus exactement l'âge, mais il convoie des morts et des blessés toute la journée sur des brancards. Il fait une vraie guerre très intensément, il l'a fait, alors avec une certaine, ce qu'on peut dire, un peu comme Apollinaire, c'est les seuls d'ailleurs. Il a une idée presque, je dirais, belle de la guerre.
Oui, Dieu que la guerre.
Oui, Dieu que la guerre est jolie. Une sorte de poésie collective, un peu irréelle, un peu délirante, mais avec des moments de chaleur sublime. Alors, un peu comme le personnage de Thomas, il est au d'abord regardé avec beaucoup de méfiance, puis finalement, il est adoré en particulier par les tirailleurs sénégalais. Alors, il y a des raisons sexuelles de son côté, mais de leur côté, il y avait aussi des raisons de sympathie. Donc, je pense que c'est là où il a la première fois senti et testé ce qu'allait être un des thème récurrent de son œuvre, c'est-à-dire le passage dans l'outre-monde, la zone, ce qu'il va appeler la zone dans les Orphées ou le Testament d'Orphée, c'est-à-dire ce moment de bascule qui peut se faire à travers un miroir d'eau, qui peut se faire à travers effectivement l'évanouissement lié à une balle, et qui fait passer de vie à trépas, mais qui permet aussi d'en revenir. Là, d'où Orphée aussi, et toute cette mythologisation de soi, puisqu'il a vu la mort, mais il en est quand même revenu.
Vous parliez de l'authentique courage de Cocteau par rapport à tant de fanfarons de la guerre qui ne sont pas allés à la guerre, Claude Arnaud. Il faut aussi préciser qu'au tout début de la guerre, en 14, il a été réformé et qu'il s'est arrangé pour aller dans ce corps voilà. d'ambulancier.
Il a voulu absolument y aller. Il a insisté pour y aller. Ce qu'on peut dire aussi, ce qui est étonnant, c'est que la technique de Cocteau pour créer ce personnage, parce qu'il y a des romanciers, je dirais, qui sont des romanciers de beaucoup plus...
De l'accumulation.
Voilà, ou pointilliste et tout ça. Cocteau est un romancier qui construit ce personnage sur un portrait. C'est-à-dire qu'il y a un portrait de Thomas assez vite, comme il y a un portrait de la princesse de Bohême. Et ce portrait, il y a deux, trois parties, mais il est quand même assez condensé. Et il a une technique assez intéressante de ce point de vue-là. Si je prends à la même époque quelqu'un comme Chardon, les personnages de Chardon sont des personnages qui sont comme de l'eau qui dort. Et vous n'avez jamais...
Comme le lecteur.
Voilà, comme le lecteur, exactement. Comme le lecteur est là, disponible et passif, a priori, au départ. Cocteau prend son personnage activement. Il le campe, il en fait un portrait, et il le cisèle et il le dessine. C'était aussi un de ses grands don, c'est un don graphique. Et ce qui l'intéresse, en fait, c'est la nature du personnage, au moins, et la guerre, et ce que la guerre transforme chez quelqu'un, mais aussi la nature, l'essence du personnage. Et l'essence de l'imposture, c'est très difficile à décrire, puisque c'est quelque chose qui échappe, précisément.
Et en même temps, ce personnage de Thomas, comme souvent les personnages de Cocteau, a pour moi quelque chose comme une ombre découpée, comme un profil, c'est très, très, très apuré. Il ne charge pas sa description, il n'y a pas de psychologie,
C'est graphique, c'est un portrait graphique, voilà.
Nous allons maintenant entendre Fabrice Rouleau jouer Thomas l'imposteur dans le film de Georges Franju de 1965 que j'évoquais dans mon introduction.
Il y a la guerre et je traîne là comme un inutile.
C'est vous qui vous jugez inutile. Vous penseriez la même chose au fond d'une tranchée.
Non, là-bas.
Thomas, vous n'allez pas partir.
Comment le pourrais-je?
Même si vous le pouviez, n'en faites rien. Je vous le demande. Par amitié.
Au lieu de se dire qu'Henriette l'aimait et qu'il aimait Henriette, ce qui sortait de son jeu, Thomas s'hypnotisait sur ce jeu et attribuait son malaise au manque d'aventure.
Donc, nous sommes d'accord. Puisque vous languissez de l'arrière, je vous envoie dans une des cantines que mon journal entretient sur le front.
À condition d'un silence absolu chez Madame de Born. Je dirais simplement que j'ai reçu un ordre d'affectation.
Claude Arnaud, nous venons d'entendre l'acteur Fabrice Rouleau. Quelle serait pour vous la réinterprétation idéale du personnage de Thomas? Est-ce que ça serait dans un film ou pas? Par quel autre acteur ou pas?
Bon, on pense à un film parce qu'évidemment c'est très visuel ce que fait Cocteau. Il a un sens incroyable, oui, du détail graphique, de l'image, du feu d'artifice, de la guerre. Alors peut-être qu'il a maintenant 15 ans de trop, mais Leonardo DiCaprio, qui je trouve avait été vraiment fantastique dans un film de Spielberg qui s'appelle Catch Me If You Can, Attrape-moi si tu peux, où il jouait le rôle d'un imposteur. Bon, là, ça tombe, évidemment, c'est assez facile, mais il était vraiment magnifique, un imposteur qui avait aussi cette aptitude à se transformer en pilote d'avion, en toutes sortes de métiers, avec cette aisance, comme ça, des vrais passe-murailles, des imposteurs touchants, des imposteurs qu'on aime, parce que ça révèle quelque chose de notre propre, aussi de notre propre aptitude, ou inaptitude d'ailleurs, à devenir ce qu'on n'est pas a priori, et de toute façon, un être humain, c'est toujours quelqu'un qui est devenu ce qu'il n'était pas a priori.
Je voudrais que vous nous lisiez un extrait du livre, puisqu'après tout, nous parlons d'un écrivain et nous parlons d'un personnage. Il serait bien d'entendre le rythme de Cocteau.
Donc, on est dans la cour de l'hôtel de la princesse de Bohême dont on parlait tout à l'heure, dans le faubourg Saint-Germain à Paris. Ce fut cette cour bruyante et encombrée que vit un soir, par la porte large ouverte, un jeune soldat qui passait dans la rue. Il s'arrêta, s'appuya contre une des bornes et jeta sur ce tohu-bohu le regard avec lequel Bonaparte devait observer les clubs. Après avoir longuement hésité, il entra et se mêla aux mécaniciens. Il paraissait si jeune que son uniforme lui donnait un air d'enfant de troupe. Mais ce qui rendait sa jeunesse incroyable, c'était un mince galon de sous-officier sur le manche de sa petite vareuse bleue. Sa figure, fraîche, animale, bien faite, l'introduisait plus vite que n'importe quel certificat. Au bout de 10 minutes, il aidait tout le monde et savait tout. et je saute quelques lignes, et Cocteau reprend, de groupe en groupe, le jeune militaire finit par rencontrer le docteur Verne qui dressait avec la princesse une liste des membres de l'association. « Qui êtes-vous ? » demanda Verne, toujours brusque. « Guillaume Thomas de Fontenoy, » répondit-il. « Parent du général de Fontenoy ?» Ce général alors était une grande vedette. « Oui, son neveu. » Et Cocteau conclut ce bref portrait. Guillaume Thomas, malgré son nom d'incrédule, était un imposteur. Il n'était ni le neveu du général de Fontenoy, ni son parent d'aucune sorte. Il était né Fontenoy, près d'Auxerre, où des historiens placent la victoire de Fontanet, remportée en 841 par Charles le Chauve. Alors vous voyez, Cocteau s'amuse à ne pas faire référence justement à la bataille de Fontenoy, mais encore à une autre.
Un mot très très fréquent de ce roman, un mot assez Victor Hugo d'ailleurs qui revient souvent, c'est songe. C'est un personnage qui est aussi dans le songe et on voit bien que Cocteau veut nous signifier par là qu'il y a quelque chose vers lequel il aspire qui n'est pas de l'ordre de la réalité comme vous-même le disiez tout à l'heure. Et voici ce que Cocteau dit aussi de Thomas. Une étoile de mensonge le menait droit au but. Aussi n'avait-il jamais le visage préoccupé, traqué du fourbe. Et il y a une grande séduction dans ce personnage de Thomas. C'est une chose qu'aime beaucoup Cocteau. Il a besoin de personnages séduisants et qui le séduisent lui-même. Il y a une phrase que disait Tennessee Williams que je reprends tout à fait à mon compte, qui dit « Je ne peux pas décrire un personnage si je ne suis pas amoureux de lui ».
Oui, il est séduit par son personnage. Et effectivement, c'est vraiment une imposture séduisante parce que s'il y a quelque chose de charmant, il y a quelque chose de naturel, il y a quelque chose d'irrésistible dans ce passe-muraille qui crée la réalité qu'il souhaite vivre. Il y a cette espèce de création sauvage, artisanale, proto-romanesque, biographique ou autobiographique, qui est belle, effectivement, qui a une forme d'art peut-être mineur, peut-être, mais qui peut mener à la prison assez vite, mais qui a un art magnifique et qui, en général, a toujours intéressé les créateurs, en tout cas un certain nombre d'entre eux. Cette capacité humaine à écrire sa propre nouvelle, à écrire un petit roman de soi, pas forcément le même tout au cours de sa vie. Les imposteurs ont souvent plusieurs vies et savent très bien recommencer, se refaire ailleurs, repartir sur un autre pied, sous un autre costume, sous une autre religion, sous un autre nom. Mais c'est là où ils sont beaux, c'est que c'est des personnages de fiction qui s'introduisent eux-mêmes dans la réalité tout en restant leur propre auteur.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'une des conséquences de ça est que Cocteau en vient presque à défendre l'imposture en tant que c'est une forme de création. Voici une phrase du livre à propos des imposteurs. « Ils vivent une moitié dans le songe. L'imposture ne les déclasse pas, mais les surclasse plutôt. Guillaume, qui est l'autre nom de Thomas, dupé sans malice, il se croyait ce qu'il n'était pas, comme n'importe quel enfant, cocher ou cheval. »
Bien sûr, il y a ça, c'est de l'enfance, la dimension onirique, la dimension de songe et mensonge, c'est l'incroyable incapacité de l'enfance à distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, et qui demande tout le temps, mais pour de vrai. Parce que le faux et le vrai sont encore des jumeaux, des siamois, indissociables. Et c'est ça qu'il travaille. Et c'est ça qu'il le travaillait aussi, parce qu'il était victime de ça aussi, autant que le producteur de ça. Oui, c'est pas un menteur. Cocteau est souvent accusé de mensonge. C'est pas un menteur du tout mécanique et ordinaire.
C'est un enfant qui a affaire à la vie matérielle.
Voilà, qui déteste la vie réelle, qui a beaucoup de mal avec la vie réelle, que la vie réelle angoisse. Donc qui invente au-dessus de la réalité quelque chose de plus brumeux, de plus fantomatique, de plus nébuleux, de plus opératique, mais qui lui plaît et dans lesquels il peut vivre. Sinon, il ne respire pas et il respire très mal dans la vraie réalité.
Alors, Claude Arnaud, un autre livre date de 1923 comme Thomas l'imposteur, c'est Le Diable au corps. Et Le Diable au corps a eu un grand succès. Thomas l'imposteur, lui, n'a pas très bien marché. Pourtant, à mon avis, je crois qu'il est meilleur que Le Diable au corps, qui a parfois une espèce de provocation nasillarde. En tout cas, je me demande si on n'a pas instrumentalisé, si la presse, parce que j'ai lu les extraits de presse qui étaient assez mauvaises pour Cocteau alors qu'il était déjà très connu à l'époque, si on ne s'est pas servi de Radiguet pour nuire à Cocteau. Il faut rappeler que Radiguet avait été recommandé par Cocteau à Grasset, qu'il a beaucoup aidé à réécrire Le Diable au corps. Et là, c'est une histoire éditoriale, mais qui n'est peut-être pas sans intérêt. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est possible, j'ai jamais pensé à ça. C'est possible qu'effectivement la presse ait joué Radiguet contre Cocteau, parce que le roman de Radiguet effectivement est aussi lié au contexte de la guerre, puisque c'est un jeune homme qui a une liaison avec une femme mariée, dont le mari est sur le front. Sauf que c'est un roman beaucoup plus réaliste, beaucoup plus cruel, beaucoup plus saignant, si on peut dire, beaucoup plus hétérosexuel aussi, à tous les niveaux. Donc, mais je pense aussi que pour la presse, c'était plus facile à traiter que ce personnage d'imposteur un peu onirique, un peu déroutant, qui joue à la guerre et qui meurt sans paraître très bien comprendre ce qui lui arrive. Je pense qu'il y a de ça aussi. La presse, est, on pourrait en dire encore aujourd'hui, est plus rassurée par un sujet réaliste, par ailleurs traité par quand même un gamin de 17 ans qui montrait une précocité faramineuse. Cocteau était un ancien gamin précoce, mais comme toujours, la précocité, ça dure pas non plus très très longtemps.
D'ailleurs, un seul critique a été, parce que la critique a été plutôt le traitant plutôt par-dessous la jambe, et un seul critique a été choqué par le traitement du sujet de Cocteau. C'est quelqu'un qui a été destiné à devenir très puissant après la guerre suivante. C'était Robert Kemp qui a dit dans La Liberté, la guerre n'est point un sujet qui souffre l'ironie.
Voilà, bon alors ça c'était évidemment dans l'époque, il y avait encore des milliers de gueules cassées, il ne s'agissait pas de plaisanter, il y avait tout un parti, hein, c'était un groupe de pression gigantesque, les mutilés de 14-18, donc effectivement, c'est le reproche que Cocteau a encouru toute sa vie, il y avait sans doute une atmosphère un peu trop légère pour des lecteurs qui avaient eux-mêmes été sur le front, ou des critiques qui pensaient encore exprimer le point de vue des gens qui avaient été sur le front et qui étaient extrêmement sourcilleux sur le traitement de la guerre.
Et d'ailleurs, si on compare le personnage de Thomas, à l'exception du personnage de Jacques dans le Diable au corps, aux autres romans parus à la même époque sur la guerre, il suffit de citer les noms pour voir que celui de Cocteau est au fond infiniment original. À l'Ouest, rien de nouveau. L'Adieu aux armes, Les Croix de bois de Dorgelès, ceux de 14 de Maurice Genevoix, c'était pas des romans où on faisait ni du songe, ni de l'ironie avec la guerre. Et même Le Voyage au bout de la nuit, au fond, est une variation morale sur la lâcheté d'un soldat.
Ouais, ouais. Non, c'est vrai que Cocteau là prend un axe très très particulier, singulier, vraiment personnel. Du coup, le roman est très frais. Il date pas du tout.
Comment est-ce que vous le situez dans l'œuvre de Cocteau? Dans ses entretiens avec Frégnaud, Cocteau dit « Radiguet a installé son chevalet devant la princesse de Clèves, il a fait le bal du comte d'Angèle. J'ai installé mon chevalet devant la chartreuse de Parme, il en est résulté Thomas l'imposteur. »
Oui, parce qu'on peut dire quelque chose de lointainement stendhalien dans ce personnage, un peu comme Fabrice à Waterloo, qui se traverse les lignes, ne sait pas qui sont les troupes napoléoniennes et les troupes hostiles, alliées, comme ça, fait la guerre sans comprendre ce qui est le propre. Alors là, en général, quand même, très souvent, des témoignages de guerre, en tout cas de gens sur le front de la troupe, hein, peut-être pas les officiers, peut-être pas les aviateurs, peut-être pas qui ont une vision plus globale et plus dense. Mais les gens, en général, dans toutes les grandes guerres, les gens sur le terrain ne voient que leurs tranchées, leurs parcelles, leurs tourelles et ne comprennent pas ce qui se passe. Et ça, il le rend magistralement. Ça, on sent beaucoup de technologie littéraire, si on peut dire. Il n'a pas besoin de faire des milliers de déploiements, de batailles. C'est pas Hugo, c'est pas Tolstoï.
C'est pas dans son tempérament non plus.
Voilà.
Mais est-ce que ça ne participe pas aussi, les exemples que donne Cocteau dans cette phrase-là, à une esthétique qu'il a eue, à mon avis, à ce moment-là, qu'il a appelé le retour à l'ordre et que Dieu sait avait radigué, c'est-à-dire une espèce de néoclassicisme?
Oui, néoclassicisme, en l'occurrence Stendhal étant lui-même déjà un néoclassique, néo-18e en début du 19e, un très 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 épuré, très précis, très sec d'une façon, mais avec cette idée que de ce classicisme épuré, on allait sortir des sentiments très profonds et qui tiennent à ce sentiment d'irréalité que la guerre communique.
Un imposteur, c'est quelqu'un qui invente une fiction pour tromper les autres avec beaucoup de talent, et Thomas est rattrapé par sa fiction. Voici la toute fin du roman, après que Thomas a été touché par une balle, la voici. « Une balle, se dit-il. Je suis perdu si je ne fais pas semblant d'être mort. Mais en lui, la fiction et la réalité ne formaient qu'un. Guillaume Thomas était mort. » C'était Personnage en personne, le deuxième. Réalisation Clotilde Pivin, attaché d'émission Daphné Abgral, prise de son Bernard Laniel, recherche China, Hervé Evano. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
Soudain, je me sens le cœur léger, léger, presque trop heureux à en crever. C'est bête, c'est incendie. j'avais acquis.